Sélection terminée. Ok, on y va. Donc, on va parler ce soir de David Amenech, puisque on a parlé la dernière fois de son ancêtre, de Imash el Malchut, de Ruth. Alors, la raison pour laquelle on parle de David, comme je vous l'ai dit, c'est parce que Shavuot, c'est l'anniversaire à la fois de la naissance et de la ptira de David Amenech. On avait vu que la Masechet Sofrim, elle dit que c'est pour cette raison-là qu'on lit la Megillat Ruth à Shavuot, parce qu'on a dans la Megillat Ruth ce qu'on appelle le Yichus de David, c'est-à-dire en fait l'ascendance de David. Mais évidemment, la question se pose, on a besoin de lire toute une Megillah pour savoir le fait que David descend de Boaz et de Ruth. C'est parce que David, il a énormément à voir avec Atzeret. Atzeret, c'est le nom de Shavuot. Je vous ai dit, les Chachamim n'utilisent quasiment jamais Shavuot, ils utilisent Atzeret. Atzeret, bonsoir Dvorah. Atzeret, c'est la clôture, c'est la Atzeret de Pessah. D'accord? Je répète, c'est pas la Atzeret de Chag HaMatzot. Chag HaMatzot, le septième jour de Chag HaMatzot, c'est la Atzeret de cette fête des Matzot. Mais la Atzeret, la clôture de ce qui commence avec le Korban Pessah, et le premier jour de Pessah qui s'appelle vraiment Pessah, et il n'y a que ce jour-là qui mérite le nom de Pessah. Par la suite, les autres jours de la fête qu'on appelle nous Pessah n'ont strictement rien à voir avec le Korban Pessah, donc rien à voir avec le nom de Pessah. C'est Chag HaMatzot. Mais la clôture de ce qui commence Korban Pessah, donc qui commence la clôture du processus de libération qui commence avec Makat Bechorot et la sortie d'Égypte, effectivement, et donc le moment du Korban Pessah, cette clôture-là, elle a lieu à Shavuot, parce que à Shavuot, bien qu'on dise de Shavuot qu'il est Zman Matan Toratenu, ce qui est vrai, et qu'on a dit à Pessah que c'est Zman Chérouteinu, c'est Zman Chérouteinu au sens, Pessah c'était Zman Chérouteinu, au sens où c'était le commencement de notre libération. Mais on est libre qu'à Shavuot, puisque vous connaissez la Drasha qui dit que les Luchot, ce qui était écrit sur les tables, c'était Charout, c'est-à-dire gravé dans les Luchot. Et le mot Charout, il peut aussi se lire Cherout, qui veut dire libre, qui est la liberté. Et donc, on dit qu'il n'y a de véritable liberté que Masher Charout al Haluchot, que ce qui est gravé dans les Luchot. On reviendra sur cette question une prochaine fois. On va parler donc de David pour cette raison-là, et on va commencer avec une Gemara. La Gemara dans Masechet Megillah, elle dit Atzeret Nami Rosh Hashanah. La Gemara dit Atzeret, donc Shavuot, c'est aussi Rosh Hashanah. Alors, il ne s'agit pas ici de dire que c'est Rosh Hashanah à cause de Bikurim, mais c'est pour une autre raison que ça s'appelle vraiment Rosh Hashanah, pratiquement l'équivalent du Rosh Hashanah du premier Tishri. Pourquoi ? Parce que bon, alors tout le monde sait que Rosh Hashanah, le premier Tishri, c'est l'anniversaire du sixième jour de la création. C'est le jour de la création d'Adam. C'est pas la création du monde. Le monde a été créé. Si on avait eu un calendrier, on dirait que le monde a été créé le 25 Elul. Mais le premier Tishri, c'est le sixième jour de la Bria, de la création. Donc, le jour de la création de Adam. Et ce jour-là, d'ailleurs, à Rosh Hashanah, on dit dans la Tfila, on dit Hayom Trilat Maasecha. Aujourd'hui, c'est le commencement de ton œuvre. Zikaron le Yom Rishon. C'est un souvenir. Notre Rosh Hashanah est un souvenir du premier jour. Premier jour, c'est Ben, c'est ça le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'en réalité, pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah alors qu'on sait bien que ce n'est pas l'anniversaire de la création du monde, mais seulement celle de Adam? Parce que comme vous savez, par exemple, quand Akadosh Baruch Hu a créé les végétaux, quand ils ont été créés, ils ont commencé à pousser, mais ils ont poussé, il y a eu seulement la partie qui a poussé à l'intérieur de la terre. Il n'y a pas de la pousse à l'air, enfin, elle n'a pas eu lieu. Les végétaux ont poussé jusqu'à affleurer la surface de la terre. Et la Torah explique pourquoi, effectivement, ils se sont arrêtés là. C'est parce qu'il n'y avait pas d'homme pour prier. Il n'y avait pas d'homme pour comprendre que pour que ça pousse, il fallait de l'eau, donc il fallait la pluie. Et la pluie, c'est quelque chose qu'on doit demander à Hachem. Nous, dans la Torah, si vous voulez, on tourne beaucoup autour du sujet de la pluie. Dans la Tfila, on mentionne plusieurs fois, et d'ailleurs, on va lire dans ce qu'on va lire ce Shabbat, on va parler du fameux Gishmechem Beitam, où Hachem dit, je vous enverrai vos pluies au bon moment, c'est-à-dire au moment où chaque goutte d'eau tombera au bon endroit et au bon moment. C'est ça qui devrait être, en fait. Si nous nous conduisions bien, la pluie ne tomberait pas n'importe quand et n'importe où. La pluie tomberait de telle sorte que chaque goutte arrive là où elle doit arriver pour faire pousser les choses. Donc, comme il n'y avait pas d'homme pour prier, donc, en fait, rien n'a commencé, le monde, on peut dire, n'a pas vraiment commencé tant qu'il n'y a pas un homme pour prier. L'homme, il est là pour prier. Alors, prier, c'est évidemment s'adresser à Hachem. Donc, il faut d'abord, d'une certaine manière, reconnaître Hachem comme le créateur. Pour Adam Harishon, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il est tir capable chez la Kadosh Baruch Hu. Il a été créé par Hachem. Et donc, il n'y a pas de problème. Lui, il sait très bien qu'Hachem il connaît Hachem comme créateur. Ça, c'est sûr. Alors, effectivement, Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Maintenant, quand la Torah nous parle de la création de l'homme, ça s'inscrit dans Briat HaOlam. Et vous savez, il y a des niveaux différents au moment de la création. À part la Hatzilut, on passe par une étape qui s'appelle Bria, on va dire création, et ensuite Yetzira, qui est la formation, et ensuite Asiya, qui est le monde dans lequel nous sommes, le monde du faire, de l'action. Et donc, le récit de la création du monde, c'est le récit de la Bria, c'est le récit de quelque chose qui est très, très, très abstrait, si vous voulez, un peu très, très haut. Et ça, d'une certaine manière, rien. Enfin, c'est pas du tout l'ordre des choses ou les choses qui sont dans notre monde. Pour arriver à ce qui se passe dans notre monde, il faut passer après la période, après le monde de la création, de la Bria, il faut aussi passer par le monde de la formation et puis ensuite descendre encore plus dans le concret, descendre dans le monde de la Asiya, de l'action, du faire. Donc, l'homme, il est décrit, dans sa création, il est décrit comme avec la Yetzira. Et le Passouk dit « Va Yitzer » Akadosh Baruch Hu a formé l'homme, Yitzer, Yashon Yetzira. Ce moment-là, dans l'écriture de ce Vayitzer, il y a une singularité, c'est que normalement, Vayitzer, ça s'écrirait Vav Yud Tzadik Reish. Or, dans Vayitzer, il y a un double Yud. Vav Yud Yud Tzadik Reish. Alors, ce n'est pas une faute de copiste. D'accord? Donc, nos maîtres expliquent pourquoi est-ce qu'il y a un double Yud. Parce qu'en réalité, il y a une double formation, une double création de l'homme, en fait. C'est-à-dire, il a une formation qui lui permet d'exister dans Olam Hazeh et d'exister aussi dans Olam Haba. une yetzira pour Olam Hazé, une yetzira pour Olam Haba, pour le monde à venir. Et que Adam soit créé pour le monde à venir aussi, ça se voit immédiatement, puisque Adam, au moment où il est créé, il est placé dans le Gan Eden. Et le Gan Eden, c'est Olam Haba. Et donc, on voit très bien qu'on le met d'emblée dans le monde, dans l'autre monde, dans le monde A, que nous on appelle avenir, mais qui était donc présent pour lui, qui était le Gan Eden. Mais l'homme a fauté, comme chacun sait. Et après le chet, Hachem a réduit l'homme. L'homme, le Adam tel qu'il a été créé, il allait d'un bout à l'autre du monde, etc. Il remplissait le monde aussi. Mais là, Kadosh Baruch Hu a mis, comme dit le Passouk, il a mis sa paume sur Adam et il a réduit Adam à des dimensions, disons, humaines plus classiques. Et il a chassé Adam du Gan Eden. Donc la faute a chassé l'homme du Gan Eden. C'est-à-dire, si vous voulez, il a perdu d'une certaine manière son aspect création pour Olam Haba. Il a perdu cela. Il en est chassé. Le sept parts de l'homme qui le qualifie pour vivre dans Olam Haba, cette part va être récupérée. Et elle est récupérée à Atzeret, elle est récupérée à Shavuot. Et nous disons dans la bracha qu'on fait sur la Torah, on dit « V'chaye olam nata betochino ». La vie éternelle, il l'a plantée en nous. Mais aujourd'hui, la vie éternelle, ça fait référence à la Torah. On va voir comment c'est la Torah qui va redonner cette éternité. Parce que quand Adam Arishon a été chassé du Gan Eden, chassé du Olam Haba, ça veut dire que il n'a plus cette caractéristique de Olam Haba. Olam Haba, c'est un monde de l'éternité. C'est un monde où la mort n'existe pas. La notion de mort, c'est-à-dire d'une vie limitée, n'existe pas dans Olam Haba. Donc chasser Adam de Gan Eden, c'est lui enlever la dimension de vie éternelle qui était la sienne au moment de la création. Et c'est parce que à Shavuot, à Atzeret, on va retrouver, au moment où on va accepter la Torah qu'Hachem va nous donner à Shavuot, on va retrouver la situation, on va se retrouver dans la situation où était Adam Arishon avant qu'il ne faute. Et ça, c'est-à-dire au moment de sa création, c'est-à-dire à Rosh Hashanah. C'est en cela que c'est pour ça que la Gemara dit que Atzeret, c'est aussi un Rosh Hashanah. C'est un Rosh Hashanah parce qu'on se retrouve dans la situation qui est commémorée par Rosh Hashanah, qui est la situation d'Adam Arishon avant la faute. Donc, le jour où nous recevons la Torah, nous recevons aussi la forme humaine, la Tzurat Adam, qui amènera le monde, le Chayé, à Olam Haba. Il faut une forme humaine, qui était la forme humaine d'Adam Arishon, avant sa faute. Si vous voulez, nous, on a perdu cette forme humaine-là. Ce deuxième aspect, donc, on l'a perdu. Et on l'a perdu avec Adam Arishon, quand Adam Arishon a fauté, et on l'a retrouvé à Atzeret. Donc, on retrouve à Atzeret cette forme humaine complète, celle qui a la dimension de Olam Haba aussi. c'est-à-dire celle qui nous amenant à Olam Haba. Concrètement, ils ont ce qui est beaucoup, enfin qui est très marquant par rapport à Olam Hazé, c'est que justement c'est le problème de l'immortalité. Il n'y a pas de mort dans Olam Haba. Donc on a acquis à Rosh Hashanah, à Tseret, à Shavuot, au moment où on a reçu la Torah, on a acquis de nouveau l'immortalité. Bon, alors, même si on ne sait pas très bien ce que ça peut vouloir dire que d'être immortel, en tout cas, l'immortalité, ça n'est certainement pas la même chose. Ça veut certainement pas dire on va vivre, mais au lieu de s'arrêter à 70 ou à 120 ans, etc., on continue. C'est pas de ça du tout qu'il s'agit. C'est une autre sorte de vie, une vie dans laquelle il n'y a pas de mort. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la mort n'existe pas. Donc toutes les angoisses et puis tout le domaine de l'impureté, puisque comme vous savez bien, le summum de la Touma, c'est le cadavre. D'accord ? Celui-là, il est ce qu'on appelle Avi Avot HaTouma. C'est l'impureté par excellence. Donc s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de notion d'impureté. Donc, dans Olam Haba, on est en dehors de la... On n'est pas du tout dans un monde où la notion d'impureté joue. Il n'y a pas d'impureté. Ça n'existe pas. Donc ça change tout, évidemment. Tout est complètement modifié de ce fait. Celui qui va faire cette réparation, celui qui va réparer la faute commise par Adam Arishon, celui qui va nous redonner cette immortalité, c'est Hachem qui redonne ça, mais celui qui représente cela, c'est David HaMelech. C'est le roi David. Et c'est pour ça que David, qu'on parle aujourd'hui et qu'on parle de façon générale de David à Tseret, c'est pour ça qu'on lit le rouleau de route. Chazal disent que tout de suite après avoir fait la faute, qui a donc entraîné la condition humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une condition humaine où l'être humain est mortel, vous l'avez tout ce que ça représente, cette espèce de cette idée de mourir, etc., d'avoir cette idée que on est un corps, notre corps défendant, un jour on mourra. Cette notion-là, à Tseret, elle a complètement disparu. Et c'est David qui va l'amener. Et Razal nous dit que dès qu'Adam Arishon a fait la faute, il a cherché qui va réparer la faute qu'il a commise, qui va donc réparer sa faute personnelle, et qui va réparer, en quelque sorte, le monde, qui va faire ce tikkun du monde, cette réparation du monde, en annulant le décret de la mortalité. Il faut annuler ce décret, qui s'est traduit, qu'on peut dire, quand Hachem chasse Adam Arishon du Gan Eden, ça veut dire maintenant tu es mortel. Donc tu n'as pas de place dans le Gan Eden. Il faut annuler ce décret. Celui qui va le faire, ce travail, c'est-à-dire celui qui va restaurer la forme humaine initiale, cette forme humaine qui a deux aspects, si vous voulez, qui a une double forme, une forme qui lui permet d'être dans ce monde et une forme qui lui permet d'être dans l'Olam Haba. Ce David, donc. La Gemara, elle nous parle de David, effectivement. Et elle nous parle de David tel qu'il a été perçu par Adam Harishon. Dans la parasha de Bereshit, Pasuk dit « Zé toldot Adam ». Ceci, ce sont les engendrements de l'homme. Les Chazal disent que sur ce pasuk de Zé toldot Adam, les engendrements d'Adam, Chazal disent, Akadosh Baruch Hu a montré à Adam Harishon toutes les générations, toutes ces générations qui sont issues de lui, Adam les a vues. Donc tout a défilé devant Adam. Et à un moment donné, Adam a vu défiler David. Le David qu'il a vu, ce David avait une durée de vie de 3 heures. Donc David devait naître, vivre 3 heures et mourir. Alors Adam Harishon a interrogé Hachem. Il lui a demandé à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de cet Adam, cet être humain, ce David, qui va vivre 3 heures. Alors Hachem lui a dit, il a fait une réponse, c'est une réponse que nous connaissons par ailleurs. Il lui a dit, car Ata b'marshava lefanai. C'est comme ça que c'est venu à la pensée devant moi. Si vous voulez, ça veut dire cette chose, cette question que tu poses, dans le monde dans lequel tu es, elle n'a pas de réponse. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui vient du monde de la Marshava divine, qui vient d'un monde qui s'appelle Marshava, pensée divine. C'est aussi le Fanaï, ce n'est pas une pensée d'Hachem, c'est un état des choses qui s'appelle Marshava, qu'Hachem fait exister devant lui. Cette réponse-là, c'est aussi la réponse, de façon un peu plus violente en fait, qu'Hachem a fait à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a crié au scandale, quand Hachem lui a montré Rabbi Akiva, vous vous souvenez probablement, que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les Luchot et pour apprendre la Torah, quand il est arrivé, il a vu que Akadosh Baruch Hu était en train d'accrocher des petites couronnes aux lettres. Si vous avez vu un Sefer Torah, vous avez sur certaines lettres, il y a trois petits traits, qui sont trois petits traits qui forment une espèce de couronne sur la lettre. Ça s'appelle les tagim. Et alors, Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, mais c'est ça qui t'empêche de donner la Torah tout de suite, là. Qu'est-ce que la Torah n'est pas prête, ça veut dire. J'aime le ces tagim, là, ces petites couronnes, il viendra quelqu'un dans la suite des temps, il va donner du sens à chacune de ces couronnes-là. Ça veut dire la chose suivante. Ces couronnes sont les mêmes, quelle que soit la lettre sur laquelle elles sont. Donc, quand on va expliquer, quand on étudie la Torah, On doit tout étudier. La Torah, c'est un, bon, vous savez bien, c'est un hypertexte, en tout cas, comme on dirait aujourd'hui. Et bien plus qu'un hypertexte, on va rendre significative non seulement les mots, mais aussi les lettres. On va devoir rendre compte de chacune des lettres, de chacun des mots de la Torah. Les Chachamim sont appelés Sofrim parce que ils connaissent, entre autres, parce qu'ils connaissent toutes les lettres de la Torah. Ils savent exactement chaque mot. Est-ce que ce mot-là, il s'écrit Chaser ou Malé? Est-ce que le mot auto, par exemple, on l'écrit Alef Vav Tav Vav ou bien Alef Tav Vav, par exemple? Donc, eux savaient tout ça, ils tenaient compte de tout cela. Dans toutes leurs drachot, ils tiennent compte de tout cela. Et en plus, il y a quelqu'un qui va donner du sens à ces petites couronnes qu'il y a sur certaines lettres. Ça, c'est extrêmement compliqué puisque c'est la même couronne sur des lettres complètement différentes et la même couronne sur une lettre, qu'elle soit dans ce mot-ci ou dans ce mot-là. Donc, c'est extrêmement. Il faut une énorme puissance pour être capable de dire, voilà, cette couronne sur cette lettre-là, dans ce mot-là, elle veut dire ça. Et cet homme qui va venir et qui va donner du sens à ça, il s'appelle Akiva Ben Yosef. C'est Rabbi Akiva. Alors, Moshe Rabbeinu a dit, mais s'il y a un homme qui est capable de faire ça, tu devrais donner la Torah par lui. C'est lui qui devrait être le récipiendaire de la Torah, et pas moi. Alors, Hachem a dit non. Alors, Moshe Rabbeinu a demandé à voir quel était le sort de ce bonhomme énorme qui va donner une dimension supplémentaire, une dimension inouïe, inédite, inouïe, tout ce que vous voulez, à la Torah. Hachem a montré à Moshe Rabbeinu comment on a torturé, comment les Romains ont torturé Rabbi Akiva, comment ils l'ont dépecé littéralement, comment on a vendu sa chair à l'étal, si vous voulez, comment on a peigné son corps avec des peignes de fer, etc. Alors Moshe Rabbeinu a crié au scandale, il a Zou Torah, le Zou Shara, une Torah pareille et un salaire pareil. Et là, c'est là que Hachem lui a fait la réponse. Shtok, tais-toi. Kachal tab et marshaba le fanal. C'est comme ça que ça s'est présenté dans la marshava devant moi. En d'autres termes, c'est incompréhensible, inaudible dans ce monde-ci. C'est quelque chose qui vient d'un autre monde, du monde de la marshava, d'une marshava qui se tient devant Hachem. Eh bien, Adam Arishon a eu la même réponse quand il a demandé, mais c'est quoi cette histoire de faire vivre à David 3 heures? Ça correspond à rien du tout. Alors Adam, lorsque Hachem lui a fait cette réponse, il a demandé à Hachem, est-ce que dans ton monde, est-ce qu'on peut faire des échanges? Est-ce que Hachem a dit oui. Alors il a dit, ok, alors dans ce cas-là, moi je donne 70 de mes années à ce David pour qu'il vive 70 ans. Et du coup, effectivement, Adam Arishon a vécu 930 ans au lieu des 1000. Les 70 qui manquent, il les a donnés à David. On va revenir sur le rapport entre Adam et David. Et il faut comprendre. Mais d'accord, maintenant on sait que David, finalement, il a de quoi vivre 70 ans. Mais c'était quoi ce passage de 3 heures à 70 ans? Nous, on dit toujours de David, on dit David Ameler, on dit David Chai Vekayam. Littéralement, ça veut dire il vit et il dure. Parce qu'il faut, chez David, on voit bien la différence entre la vie et la durée. La vie, ça veut dire naître. naître à la vie. Mais ça n'implique pas du tout qu'on va vivre longtemps ou qu'on aura une durée. La durée de vie, c'est une autre affaire. Chai, il vit, vekayam, et il dure. Parce qu'en fait, la durée de David, c'est les 70 ans que Adam lui a donné, mais en réalité, avec David, il va venir ce qu'on appelle la Malchut Beit David, la maison de David. Cette maison de David, elle va jusqu'au Mashiach, puisque le Melech HaMashiach, c'est le descendant de David. Donc ça, c'est la notion de vie et de durée. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. La Gemara dans Avodah Zarah, dans Masechet Avodah Zarah, elle dit... La Gemara dans Avodah Zarah, elle dit que David HaMelech, enfin, ou David, est essentiellement teshuva. Il est là pour enseigner la teshuva. Alors, Chazal s'appuie pour dire cela sur un... C'est un autre enseignement aussi de Chazal qui disent la chose suivante. Nous disons dans la Shemoneh Esrei, dans la Amida, nous disons Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. David HaMelech a demandé qu'on dise aussi Elokei David. Ce qui semble justifié parce que il y a les patriarches et puis il y a le Mashiach, parce que David c'est lui le Mashiach quelque part. Hachem lui a dit non. Alors David a demandé, mais pourquoi? Hachem lui a dit, eux je les ai éprouvés, toi je ne t'ai pas éprouvé. Et David HaMelech a eu la mauvaise idée, semble-t-il, de dire, Bochenina, ok, éprouve-moi s'il te plaît. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Tous les matins, dans les premières brachot qu'on dit le matin, dans le cadre de ces brachot, on demande à Hachem de ne pas nous amener l'olidé nisayon. Ne nous amène pas dans les situations d'épreuve. Alors, ça nécessite un tout petit peu d'explication parce que on sait bien qu'on ne grandit que des épreuves. On grandit en traversant avec succès des épreuves. Donc si on ne demande pas d'épreuves, alors c'est quoi? Je demande à ne pas grandir? Non, bien entendu, il ne s'agit pas ici de refuser de grandir, mais il s'agit de comprendre qu'on ne peut pas demander une épreuve. Quand tu demandes une épreuve, c'est comme si tu disais, vas-y, éprouve-moi, tu vas voir comme je suis. C'est de l'orgueil, quoi. Il y a une dimension d'orgueil dans cette demande d'épreuve. C'est comme si je disais, tu peux m'éprouver, je suis sûr que je serai à la hauteur. Alors Hachem lui a dit, il m'a tout de suite dit, tu sais, je vais t'éprouver avec quelque chose que les enfants du Talmud Torah de, je sais pas, de quelle banlieue de Paris ou de Buenos Aires ou de je sais pas, de New York, savent pertinemment. Et tu vas te casser la figure. Et Hachem a éprouvé David avec Bathsheba. Il l'a éprouvé. L'épreuve s'appelle adultère. Bon, David était devant un adultère. Bathsheba est une femme mariée. Et il a pris cette femme, sachant pertinemment qu'elle était mariée. Alors, la Gemara dit, en vérité, donc, David ne méritait pas du tout, il n'était pas à la hauteur de faire une faute aussi grave qu'un adultère. Et parce qu'il n'était pas à la hauteur de faire une faute aussi grave qu'un adultère, alors Hachem l'a éprouvé avec un adultère, mais à blanc, si on peut parler comme ça. Pourquoi c'est à blanc? Vous savez bien que les soldats de David qui partaient en guerre, ils donnaient un guet à leur femme. Ils disaient à leur femme, voilà, ceci est ton guet, ça veut dire tu es divorcé, depuis aujourd'hui, le jour où je pars en guerre, si je ne suis pas revenu d'ici, et puis il disait, voilà, d'ici un mois ou six mois, si je ne suis pas revenu d'ici là, tu es divorcé. Alors pourquoi est-ce que c'est bien d'être divorcé plutôt que veuve? D'abord parce que c'est pas sûr qu'on allait retrouver son corps. Donc ça pourrait faire un problème de aguna. Puis à part ça, on peut imaginer par exemple qu'une femme, elle est épousée quelqu'un, et ils n'ont pas d'enfant, et elle sait que si son mari le sait aussi, que si le mari décède à ce moment-là, le mari, il a un ou des frères, donc les frères en question, ils seront, ou la femme, elle aura besoin, ou bien elle doit faire yiboum avec un des frères, ou alors obtenir une khalitsa qui va lui permettre d'épouser qui elle veut, en dehors de la fratrie, en dehors donc des frères. Peut-être que la femme, elle a dit clairement à son mari, écoute, je me marie avec toi, mais je n'ai pas du tout envie, si Ras de Shalom y arrive quelque chose, de me retrouver lié avec un de tes frères, ou avec ton frère. Je ne veux pas. Alors le mari lui dit, ok, voilà. Disons, au moment, puisque maintenant je vais dans une situation dangereuse, je te donne un guet, de telle sorte que si je ne reviens pas, tu ne sois pas veuve, mais tu seras divorcé. Si tu es divorcé depuis aujourd'hui, on ne peut pas donner un guet en disant, c'est ton guet si je meurs le jour de ma mort, parce qu'il faut qu'on soit vivant pour donner le guet. Donc le guet, il ne peut être donné que par quelqu'un de vivant. Donc c'est pour ça que le guet, il part du jour où ils vont, ils partent à la guerre, par exemple. Donc ça évite tout problème, parce que même si on ne retrouve pas son corps, la femme, elle peut vivre sa vie, elle peut se remarier sans problème. Seulement, évidemment, si le mari, il a été question de faire cela pour les soldats aussi aujourd'hui, pour éviter toutes sortes de problèmes, mais ça va pas du tout, parce que si le mari revient en permission, alors il est revenu. Donc ça annule le guet. Donc il faudrait que chaque fois qu'il repart, il vient en permission, chaque fois qu'il part après la permission, il faudrait qu'il redonne un guet partant de ce jour-là à son épouse. Alors ça, c'est trop compliqué à gérer, on n'arrivera pas à gérer ça. Donc on ne l'a pas fait, mais Bismanam, on faisait comme ça. Les soldats de David, ils faisaient ça. Or, comme vous savez bien, Uria n'est pas revenu. Il est mort. Donc, puisque Uria est mort, Bathsheba était divorcée depuis le moment où Uria est parti à la guerre. Donc, quand David et elle ont eu ce rapport, elle était déjà divorcée. Enfin, elle était juridiquement, elle est divorcée. Seulement, David ne le savait pas. Ni Bathsheba, d'ailleurs. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Au moment où ils ont fait, où ils ont eu ce rapport, si Uria revenait dans le délai qui avait été convenu, David était adultère. Il n'y a pas de question sur Bathsheba, parce que qu'est-ce que peut faire une femme quand le roi, devant le roi, elle ne peut pas. On considère qu'elle est à Anoussa quasiment. Mais lui, David. Et David lui-même, il a fait tchouva toute sa vie sur cette faute-là, parce que le travail intérieur pour faire cet adultère-là, il a bien fallu qu'il le fasse. Mais comme il était là pour enseigner la tchouva, pour montrer qu'un roi peut aussi fauter et qu'un roi aussi peut faire tchouva, Il s'agit d'enseigner la possibilité de la tchouva. Donc, son essence à David, c'est d'enseigner la tchouva. Mais la tchouva, elle n'existe que s'il y a eu une faute. Or, au moment où Adam a vu David, il n'avait pas fait de faute. Donc, il n'y avait pas de faute. Et s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de tchouva. C'est ça qu'on dit quand on dit David, il n'avait pas de durée, il n'avait pas de raison d'être. N'est-ce pas? Puisqu'il n'y a pas de faute, il n'a pas de tchouva à faire. On ne peut pas montrer la tchouva puisqu'il n'y a pas de faute. Donc, il faut attendre qu'il y ait une faute. Quand Adam a fait une faute, alors, si vous voulez, c'est comme... Alors, il donne une raison d'être à David. Donc, la faute, si vous voulez, avant que Adam fasse la faute était une possibilité. On est obligé de dire qu'il y avait une possibilité de fauter. Parce que sinon, si c'était impossible de fauter, comment Adam et Chava ont-ils fauté? Il faut bien dire que la faute était une possibilité. Mais pas plus. Et du coup, David était aussi une possibilité. 3 heures, c'était ça, cette idée. Il y a la vie, mais il n'y a pas de durée. Et à partir du moment où Adam fait une faute, alors David mérite une durée, et c'est ça qu'on veut dire quand Adam lui donne la durée. C'est ça, cette histoire des 3 heures, des 70 ans. Et Adam lui a bien donné les années de vie parce que David, c'est celui qui va montrer la possibilité de la tchouba, théorique, donc initialement. C'est pas le premier à avoir fait tchouba. Vous savez bien qu'un jour, je ne sais pas, au détour d'un chemin, Adam a rencontré Caïn. Et il lui a dit, tu vis encore avec ce que tu as fait, tu vis encore? Alors, quand il lui a dit, j'ai fait tchouva. Alors, Adam a dit, on peut faire tchouva? Je ne savais pas. Et il a fait tchouva. Donc, c'est Caïn qui a enseigné à Adam Marichon qu'on pouvait faire tchouva. Puis ensuite, on dit, les grands maîtres de la tchouva, c'est Reuven qui a fait tchouva, quelque part, qui a montré à Yehuda qu'on pouvait faire tchouva. Avec le chet, qui devient, avec la faute d'Adam, qui devient une réalité, cette faute qui n'était que possibilité, une possibilité, alors le chet devient réalité, donc David devient aussi une réalité. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que Adam lui donne 70 ans. Donc, quand Hachem nous donne la Torah, alors peut-être que je précise la chose. Quand on dit quand le pasouk dit que Hachem a chassé Adam Arishon du Gan Eden, dans la Torah c'est marqué, on le chasse parce que dans Gan Eden, en plus du Etz Hadat Tovara, il y avait aussi Etz Hachaim. Il y avait un arbre de vie. Un arbre dont, qui avait cette richesse, cette capacité, que si on mange des fruits de cet arbre-là, on vit éternellement. Donc Hachem a dit, puisque maintenant la sanction d'Adam, après sa faute, c'est qu'il a perdu cette éternité de vie possible, on ne peut pas le laisser dans Gan Eden, parce que maintenant, il pourrait annuler la sanction, il n'a qu'à manger du fruit du Etzraïm et il vivra de nouveau éternellement. Et donc, il a été chassé du Gan Eden pour qu'il ne puisse pas manger de ce Etzraïm. Achayim. La Torah, comme vous savez, elle est appelée Etzraïm. La Torah, c'est un arbre de vie. Donc, quand Hachem nous donne la Torah, il nous donne Etzraïm. Il nous donne donc ce qui a été enlevé à Adam Arishon après sa faute. Il nous donne la possibilité de vivre éternellement. On peut manger de cet arbre-là. Cet arbre, c'est la Torah. Si maintenant on s'occupe de Torah, si on fait de la Torah notre affaire, c'est pas simplement l'étude, n'est-ce pas? On dit dans la bracha sur la Torah, on dit la asok, faire de la Torah son affaire. C'est son business. Comme quelqu'un qui pense toute la journée à son business, nous aussi, on doit penser en permanence à la Torah. Y compris quand on fait d'autres choses. D'accord? Il faut aussi se demander, est-ce que dans ce que je suis en train de faire, est-ce que je respecte la Torah? D'accord? Quand quelqu'un fait des affaires, à tout instant, il a des problèmes de Torah, parce qu'il faut savoir, est-ce qu'il est fiable dans son business, est-ce qu'il n'y a pas de ribite, est-ce qu'il n'est pas en train de prêter de l'argent à intérêt, est-ce qu'on peut escompter, enfin, il y a toutes sortes de problèmes qui naissent quand on fait des affaires. Est-ce que la marchandise, c'est bien celle que j'ai annoncée, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'honneur, il y a toutes sortes de problèmes. Quand on parle, par exemple, on parle beaucoup de ces problèmes-là, d'ailleurs, dans la parasha qu'on va lire ce Shabbat. On voit d'ailleurs dans ce qu'on va lire ce Shabbat que vivre en respectant toutes ces lois du prochain Mishpat, le ribit, la honaa, etc., vivre, ça, c'est d'une certaine manière équivalent à pratiquer la Shemitah. C'est reconnaître que Hachem est le maître du monde. Je ne fais pas du business comme je veux. Je ne peux pas vendre à n'importe quel prix, n'importe quoi. Je ne peux pas prêter à intérêt. D'une certaine manière, on voit la juxtaposition des versets dans la parasha de Bahar. On voit qu'il y a quelque chose de commun entre la pratique de la Shemitah, de l'année sabbatique, et des halachot ici de Rosh Mishpat qui sont énoncés juste à côté. Je referme la parenthèse que je n'avais pas ouverte, mais bon, vous avez compris. Donc Hachem nous donne ce qui avait été enlevé à Adam Harishon. Donc encore une fois, ça lui a été enlevé quand il a fait la faute. On lui a enlevé l'accès au Etz Hachaim. Et Hachem nous donne Etz Hachaim. Il nous donne accès à ce Etz Hachaim qu'est la Torah. Alors, il est bien clair que la mort existe toujours. On a la Torah, mais la mort existe toujours. Mais celui qui prend le Etz Hachaim de la Torah, qui prend ça sérieusement, il faudra expliquer exactement ce que c'est, il a en lui ce chaye olam, cette vie éternelle qu'Hachem a planté en nous à Matan Torah, comme on veut dire, Nata Betochino, qu'il a planté en nous. D'accord, c'est le fait qu'on soit néanmoins mortel, ça n'a rien à voir, parce que, comme je vous ai dit, l'éternité de vie, c'est pas une question de durée, c'est une question de qualité de vie. C'est un autre monde. Donc celui qui est vraiment dans le monde de la Torah, il est dans un autre monde, au sens où, bien sûr qu'il a à voir avec la réalité, mais il regarde le monde d'une autre manière. Nous ne regardons pas le monde de la même manière que les gens qui n'ont pas de Torah. Le Ramban dit, nous, notre regard sur le monde, c'est un regard dans lequel on sait que la gouvernance du monde, elle dépend de nos actions. Y compris la gouvernance du monde, ce qu'on appelle les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est Hachem aussi qui les a données. Ce n'est pas moins la volonté d'Hachem que les miracles. Et l'essentiel, d'ailleurs, c'est de reconnaître que les lois de la nature ont été données par Hachem. Parce que dans les miracles, c'est facile. On ne peut pas se raconter autre chose. Mais comprendre que les lois de la nature, elles dépendent de notre conduite, c'est ça l'essentiel en réalité. Donc on a la possibilité de vivre ce Chaye Olam, cette vie éternelle, tout en étant dans la Mazé. Donc maintenant, si on résume, Adam Arishon après la faute, il est la Tsurat Adam, il est la forme humaine à partir de laquelle nous vivons, nous sommes tous les descendants d'Adam, d'accord, bien qu'il y ait eu le Maboul entre-temps, mais les survivants, les antédiluviens, la Noach, monsieur et madame et leurs enfants et leurs femmes sont des gens qui sont évidemment les descendants d'Adam Arishon. Et donc nous, on est descendants de ceux qui sont les descendants d'Adam. Donc on vient tous d'Adam. Donc en fait, Adam Arishon après la faute, il est cette Tsurat Adam d'après laquelle nous vivons dans Olam Hazeh. Mais David, c'est une autre Tsurat Adam, un autre exemplaire, si vous voulez, de la Tsurat Adam. C'est la Tsurat Adam grâce à laquelle nous accéderons à Olam Haba. Donc, Atzeret HaShavuot, c'est le jour de Kabbalat HaTorah, mais aussi le jour où nous recevons cette Tsurat Adam qui nous amène à Olam Haba, en mangeant, avec la possibilité de manger de ce Etz HaRaim qu'est la Torah. Quand je dis nous, c'est le monde entier en fait. Le Mashiach, il ne vient pas que pour les hommes, que pour les juifs, il vient pour l'humanité tout entière. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près la Mida principale de David, peut-être que, oui, non, on va dire ça. La Mida principale de David, c'est la Tfila, c'est la prière. David HaMelech dit dans Tehilim, il dit « Vani Tfila ». Et quant à moi, je suis prière. Vous entendez bien. Il ne dit pas « je suis l'homme qui prie ». Il dit « je suis prière ». Qu'est-ce que ça veut dire? Comment un homme peut-il être prière? Alors, on peut essayer de donner une indication. Et justement à partir de David. Je vais d'abord vous dire la chose, puis ensuite on verra comment c'est lié à David. L'homme qui sait au plus profond de lui-même qu'en réalité, il n'a rien, qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, qu'il ne mérite rien, cet homme-là, il est prière, il est tfila. David HaMelech dit, c'est dans le premier des chapitres du Hallel, David parle de lui-même ici. Et il dit, « Me ashpot yarim evyon. » HaKadosh Baruch Hu, il élève le pauvre à partir de la situation qui est la sienne, c'est-à-dire Ashpot. Mais Ashpot. Ashpot, c'est quoi? Ashpa, c'est la poubelle, c'est la décharge. Mais vraiment, une décharge, ce n'est pas une déchetterie, hein, c'est vraiment la décharge. David HaMelech, il était dans cette décharge. Lorsque lorsque le Navi, lorsque le prophète Shmuel a reçu l'ordre d'aller oindre David. Shmuel avait oint le roi Shaoul. Il était le premier roi. Shaoul était un super sadique, ce que vous voulez. Et Shmuel était très attaché à Shaoul. Mais comme vous savez, Shaoul a raté, en fait. Hachem lui avait donné l'ordre de détruire Amalek. Et Amalek, la destruction d'Amalek, ça ne consiste pas, si vous voulez, à prendre le drapeau de l'armée d'Amalek. Détruire Amalek, ça veut dire tuer tout le monde. Tuer tout le monde, hommes, femmes, enfants, et tuer aussi tous les troupeaux, pour que rien n'existe qui porte le nom d'Amalek. Il faut détruire toute trace d'Amalek. C'est un sujet sur lequel, bien entendu, il y a des questions. Qu'est-ce que ça veut dire de tuer les enfants, tuer les nourrissons, tuer les troupeaux, etc. Le roi Shaoul a fait la guerre contre Amalek. Il a gagné la guerre. Et il y a deux choses qu'il n'a pas faites. Il n'a pas tué tous les troupeaux. Et il n'a pas tué non plus le roi Agag, le roi d'Amalek. Mais pas parce qu'il voulait désobéir à Hachem, parce qu'il pensait faire mieux. Il a dit, je ne vais pas tuer, massacrer des troupeaux. On va en faire des corbanotes. On va les approcher, on va les tuer, mais on va faire la shrita, on va faire des corbanotes. Et quant au roi Agag, je ne vais pas le tuer comme monsieur tout le monde. On va le tuer en grande pompe, pour montrer, on va lui couper la tête en public. Et il est tellement persuadé, Shaoul, qu'il a bien fait, que quand il revient de la guerre et que Shmuel vient à sa rencontre, il lui dit, j'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé. Et Shmuel, il est ravagé, ravagé. Shaoul, c'est quelqu'un qui, on peut dire, c'est quelqu'un qui pourrait vous dire, nous dans la famille on ne faute pas, c'est pas l'habitude, on ne faute pas. Mais c'est vrai, il ne fautait pas. Et donc il comprend pas du tout ce qu'on lui veut. Shmuel lui dit, est-ce que tu crois vraiment qu'Hachem préfère des sacrifices ou il préfère qu'on obéisse à ce qu'il a ordonné? Tombe des nues, Shaoul. Comprend pas. Alors effectivement, Shaoul veut, il va perdre la royauté avec ça. Et Shmuel, qui est, comme je vous ai dit, complètement dévasté, ravagé, il porte quasiment le deuil de Shaoul. Et à un moment donné, Hachem lui dit, est-ce que tu vas pas bientôt arrêter de porter le deuil de Shaoul que j'ai considéré comme tout à fait incapable, tout à fait inapte, inadapté. Il utilise un mot très difficile à traduire en français. J'arrive pas à le dire pour Shaoul. Il lui dit, mais à Steve, il me dégoûte. Il me dégoûte pour... Je ne peux pas le prendre comme roi d'Israël. Et toi, Shmuel, Shmuel, c'est pas n'importe quel prophète, n'est-ce pas? Shmuel, c'est une superstar. Shmuel, c'est l'équivalent de Moshe Rabbeinu, d'Aaron HaKohen. Alors, Hachem lui dit, voilà, tu vas aller oindre un des fils d'Ishaï. Alors, Ishaï, c'est un des descendants, c'est un descendant de, justement, de ce fameux couple dont on a parlé la dernière fois, du couple Boaz-Ruth. Pas directement, c'est pas le premier, c'est pas la première ni la deuxième génération, mais c'est un descendant, Ishaï. Le bonhomme Ishaï, c'est quelqu'un d'assez particulier. Il fait partie de ceux dont on dit qu'ils ne sont morts que pour faire comme tout le monde. Chazal disent, il est mort, Beitio Shel Nachash. Il est mort parce qu'on est devenu mortel. Ittur Shenarach, c'est-à-dire c'est le poison du serpent, c'est-à-dire du Nahash HaKadmoni, qui a fait que, c'est-à-dire sa séduction, qui a fait qu'on est devenu mortel. Donc lui, Ishaï, il n'a pas de faute. Mais Ishaï lui-même, c'est quelqu'un qui... Il a un problème. Parce que, vous vous souvenez, je crois qu'on en a dit deux mots, puis vous le saviez probablement déjà, mais la conversion de Ruth en tant que Moabite, c'est une conversion qui a posé problème à beaucoup de monde. C'est-à-dire que quand vous lisez le texte de la Torah, vous voyez que le peuple de Moab, Moabi, lo yavo bikal Hashem. Un Moabite, on n'accepte pas sa conversion. Les gens de Moab, on ne les veut pas à l'intérieur du clan d'Israël. On ne les veut pas. Ils se sont suffisamment disqualifiés par leur conduite à l'égard du peuple, etc. On ne les veut pas. Et par conséquent, on peut pas se convertir. Quand quelqu'un te dira « je suis Moabite d'origine et je me suis converti », tu sais que ce n'est pas vrai. Personne ne peut se convertir en étant Moabite. Seulement, justement à l'époque de Boaz, les Chachamim ont discuté de ce verset. Le verset, il est au masculin, mais toute la Torah est au masculin. Mais les Chachamim se sont demandé, est-ce que finalement, la raison qui est invoquée pour disqualifier les gens de Moab, à savoir... ils ne sont pas venus à la rencontre des Bnei Israël comme tout le monde le fait dans le désert. On vient toujours à la rencontre des gens avec de l'eau et du pain. C'est le minimum, c'est un derech eretz minimum. Et eux, ils n'avaient pas ça. Des gens qui n'ont pas ce derech eretz minimal, on n'en veut pas dans le peuple d'Israël. Ce n'est pas possible. Mais les Chachamim ont commencé à discuter, ils ont dit, mais finalement, c'était la tâche de qui de faire ce travail? C'est pas la tâche des femmes. Les femmes ne peuvent pas aller à la rencontre des généraux ou des soldats venir leur proposer à manger et à boire. Ce serait inconvenant. Et par conséquent, c'était la tâche des hommes. Donc qui s'est vraiment disqualifié? Ce sont les hommes. Donc seuls les hommes doivent être exclus du clan d'Israël, enfin exclus de la possibilité d'entrer dans le clan d'Israël. Mais les femmes, elles peuvent se convertir. Et ça a été décidé justement à ce moment-là. Le Beit Din a décidé à ce moment-là que les femmes pouvaient se convertir. Mais il y avait toujours des gens, on voit ça dans la Megillat Ruth, effectivement, on voit le Plony Almoni là-bas qui dit « Moi, je peux pas épouser une convertie venant de Moab. Ça va me faire des problèmes pour marier mes enfants, etc. » Il ne voulait pas le faire. Et probablement, il n'était pas le seul à ne pas vouloir. Bon, les autres n'étaient pas concernés. Boaz, lui, qui était le chef du tribunal rabbinique à ce moment-là, lui, il savait qu'on avait le droit, et donc lui, il a été d'accord d'épouser Ruth. Mais il y avait toujours des gens qui disaient « Ouais, c'est pas clair, cette conversion, c'était une conversion un peu bidon, c'est pas… » etc. Et ça a poursuivi David HaMelech toute sa vie. Mais avant de poursuivre David, ça a poursuivi Ishaï. Et Ishaï aussi, tout à coup, lui-même, il s'est demandé « Mais est-ce que j'ai vraiment le droit de me marier avec ma femme? » Il avait déjà 8 garçons, en tout cas. On ne parle pas de ses filles. Je ne sais pas si David avait des sœurs. Mais en tout cas, il avait 8 frères. Et donc, Ishaï, à un moment donné, il s'est dit, mais je ne peux pas, je n'ai peut-être pas le droit d'avoir des rapport avec ma femme, je n'ai pas le droit, on n'est peut-être pas vraiment marié, etc. Et donc, il a décidé que il aurait des rapports désormais avec sa servante. Parce que la servante, il pouvait avoir, même s'il n'est pas reconnu comme juif, il peut avoir des rapports avec la servante. Donc, il avait mis au point un scénario avec la servante. Mais la servante, elle était proche de la femme de Ishaï. Et ils avaient convenu, disons, de se rencontrer dans une grange. Et donc, comme convenu, la servante, elle est entrée dans la grange. Et donc, Ishaï pensait qu'elle était là, mais elle était sortie de l'autre côté. Et c'était sa femme qui était là. Et donc, le rapport, Ishaï n'a pas su, mais qu'en réalité, il avait eu un rapport avec sa femme. Et c'est sa femme qui a eu un enfant. Et pour lui, il ne comprenait pas comment sa femme pouvait avoir un enfant. C'était pas de lui, puisque lui, il n'avait pas de rapport avec sa femme, d'après lui. Et donc, il considérait cet enfant de sa femme comme un mamzer. Le Khumra, d'accord. Un mamzer, oui. Ma femme, elle me dit que David, il avait une sœur qui s'appelait Tsruya.
Avishai ben Tsruya, c'était ça.
Voilà, donc il a une sœur. Mais attends, Avishai, c'est un des fils. Donc c'est pas une fille.
On l'appelait ben Tsruya.
Donc ça veut dire que c'est une sœur de.
Un neveu. Neveu de David.
Avishai, c'est un fils, non? C'est un frère, non? C'est aussi un frère, aussi un.
Je crois.
Bon, d'accord. On verra, on va régler les affaires entre nous après. David, il était à la fois pas vraiment considéré comme son fils, et s'il était son fils, s'il était quelque chose, il était un mamzer. Donc Shmuel arrive chez Ishaï, sur l'ordre d'Hachem, et il dit à Ishaï, convoque tes fils, et ils se purifient tous, une grande chose, on va nommer le roi, on va désigner le roi. Alors voilà, Ishaï, Shmuel Anavi, il est devant le fils aîné de Ishaï, il dit « Ah, quelle prestance, on voit, c'est clair, ça, on voit très bien qu'il est fait pour être roi. » Hachem lui dit « C'est pas lui. » Puis il passe en revue tous les fils, « C'est pas lui. » Alors à la fin, Shmuel il se tourne vers Ishaï, il lui dit, c'est tout, il n'y a plus d'autres garçons. Hachem m'a envoyé moindre un de tes fils, et bon, c'est pas là, c'est pas ça. Et, alors, Ishaï lui dit, ouais, il y en a un, il est vraiment à Hatson, il est là-bas, il est en train de faire paître les troupeaux. Il ne l'a même pas convoqué, il ne le considère pas comme son fils. Alors Shmuel lui dit, fais-le descendre, va le chercher. Je ne m'en vais pas tant qu'on n'a pas réglé ce problème. Et alors David descend de son alpage, là, enfin c'était pas les Alpes, mais bon, il descend de ses pâturages, et quand il est là, il est en bas, c'est un petit bonhomme, il est roux, tout pour plaire, quoi. Il est roux. Alors, Shmuel Anavi, dit Razal, il dit, mais c'est Esav. Et Hachem dit, oui, c'est Esav. C'est Esav, mais il a de beaux yeux. Esav avec de beaux yeux, ça reste encore Esav, non? Sauf que de beaux yeux, pour Razal, ça veut dire qu'il respecte la halakha. Esav, c'est une super tête. La tête d'Esav, elle a roulé d'elle-même dans Maratha Marpella. Si elle y est, c'est qu'elle a le droit d'y être. Sauf que Esav, lui, il n'était pas gouverné par sa tête, il était gouverné par ses pulsions, par son Yetzerara, etc. Mais si maintenant, avec la puissance de Esav, avec sa capacité de guerrier, de maître du monde, quelque part, mais si maintenant c'est canalisé par la halakha, alors c'est ce dont l'Israël a besoin. Hachem lui dit, oint-le, c'est lui qui va devenir roi. Et c'est fait. Donc vous voyez, David, qui vient vraiment de la poubelle, qui vient vraiment. Chazal disent, il était derrière les troupeaux. Qu'est-ce que les troupeaux laissent quand ils s'en vont? Voilà. Regardez les champs tels qu'ils sont quand les troupeaux sont partis. Ben, c'était là-dedans que pataugeait David, quoi. Il est vraiment dans la décharge. Il est dans la poubelle, littéralement. Et il dit, Hachem, il m'a pris de cette situation-là et il m'a élevé, et il a fait de moi un roi. Tel que je vous l'ai décrit, c'est pour ça que je vous l'ai décrit, il est vraiment passé de son pâturage à la royauté. Bon, ça c'est pas, on n'a pas publié tout de suite qu'il était roi, mais il était roi, de facto, du pâturage à la royauté. Mais un spot, Yarim Evion. Et en plus, David Amener dit de lui-même, il dit plus que ça. Il y a une créature qui vit bien dans ses poubelles. C'est les vers. L'insecte, les vers. Et lui, David, il dit de lui-même, Anochi tolaat veloish. Je suis un ver, misso, un ver, et pas un homme. Je suis cherpat adam, bazoui am. Je suis la honte de l'humanité, quoi. Ça, c'est ce que David pense de lui. Je viens de plus profond, plus bas. Je ne suis rien, mais vraiment rien de rien. N'être rien, rien à voir. C'est-à-dire, c'est en fait n'avoir aucun poids. Je pèse rien du tout. Je ne suis rien, je ne pèse rien. En Lashon HaKodesh, ça se dit ne pas avoir de kavod. Le poids de quelqu'un, c'est son kavod. Kavod, c'est Lashon Kaved. C'est la lourdeur. Lourd, c'est son poids. Le kavod, quelqu'un qui n'a aucun kavod. Vraiment aucun kavod. C'est-à-dire quelqu'un qui, tout à coup, dans certaines circonstances, il comprend qu'il se rend compte qu'il n'est rien, que tout ce qu'il croyait, c'est une illusion. Celui-là, il ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre si on n'est rien du tout. Vraiment rien. Seulement, Hachem a fait en sorte que l'homme a une forme d'instinct de survie. Et son instinct de survie lui donne un conseil. Il devient fou. Quand il devient fou, alors il se prend pour le roi. Et avec ça, il arrive à vivre. Mais s'il est trop fort pour devenir fou, alors il faut qu'il meure. Il n'a pas d'autre solution que de mourir. Dans le Gehinnom, l'homme voit qui il est réellement. Seulement là-bas, il n'y a pas cet échappatoire, ce paradis des fous. Quoi. On est dans l'Olam HaEmet, dans le monde de la vérité. Et c'est pour ça que la souffrance est énorme. Parce que la solution, ce serait de mourir, mais il est obligé de vivre. Il faut vivre en n'étant rien. Et ça, c'est insupportable. C'est ça le Gehinnom. Et il faut dire que quand David dit « Je ne suis rien », etc., « Mais je peux dire mes viennes » et qu'il est « Tolat Veloish », il est roi d'Israël. C'est pas quand il était berger sur son pâturage qu'il a dit qu'il était rien. C'est quand il est roi d'Israël. Donc, on vient de dire qu'un homme qui comprend qu'il n'est rien du tout, d'une certaine manière, il n'existe pas. Et pourtant, David, il existe. Il existe, comme il dit, comme Tolaat, mais il existe. C'est ça le sens de Vaani Tfila. Quand il dit « je suis prière », David n'existe que comme Tfila, que comme prière pour devenir Ish. Prier pour devenir un homme. Les gens qui étaient dans les camps, ils ont été soumis à des traitements qui avaient pour but de les mettre dans une situation où ils comprenaient qu'ils n'étaient rien, qu'ils n'avaient aucun mérite, qu'ils étaient moins que rien. Des sous-hommes, de tout ce que vous voulez. Et beaucoup d'entre eux, enfin, il y a des gens qui sont sortis, mais ils n'ont pas pu vivre après. Parce qu'ils n'ont pas trouvé en eux l'énergie pour devenir riches. Ils ne sont pas devenus tfila. Ils ont été tellement cassés qu'ils n'ont pas trouvé cette énergie quand même pour être tfila, pour prier pour devenir riches. Et beaucoup d'entre eux se sont suicidés ou se sont laissés mourir. Quand la tfila vient de telle profondeur, elle englobe toute la réalité, en fait. C'est pour ça que celui qui comprend qu'il n'est rien, qu'il n'existe pas vraiment, etc., il n'est ish que grâce à David, en quelque sorte. Que grâce à David, il est tfila pour que revienne cette surat Adam, qui la vraie Tsurat Adam, l'original. Mais évidemment, cette fille-là, elle ne vient que de quelqu'un qui se voit vraiment comme Tolaat Veloish. Celui qui dans notre réalité, dans Olam Hazeh, il voit quelque chose d'une sourate Adam avec laquelle il peut se consoler. Celui-là, il ne va pas faire cette fille-là pour devenir Ish, pour qu'elle devienne une véritable, réelle sourate Adam. Il pense qu'il en a une. Je pensais peut-être que c'est ça, je n'ai pas eu le temps de regarder vraiment plus avant, mais quand Noach est né, les gens ont dit « Zeinach Amenu ». Lui, celui-là, il va nous consoler. Donc, quand Noach naît, on est juste avant le déluge, n'est-ce pas? C'est la génération, bon, c'est beaucoup d'années, mais c'est la génération du déluge. Et ces gens-là, probablement qu'ils ont bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils ont cette idée que finalement, il va nous consoler. Pourquoi ? Il va inventer la charrue. Quelque part, maintenant, on va pouvoir maîtriser la terre. S'il fallait faire à la main, on va pouvoir le faire avec une charrue maintenant. Et donc, quelque part, voilà, ils sont consolés. Voilà, on est quelque chose. Nous sommes devenus des agriculteurs. On a la technologie qui nous permet d'être quelqu'un. Donc David, il est tfila, il est cette prière fondamentale pour devenir ish, en fait, pour devenir un homme. Un être humain. David, il a reçu aussi, il a atteint ce niveau-là, et il a aussi reçu la malchoute. Il a reçu la royauté. Il a reçu la royauté, il a été oint comme roi, c'est-à-dire il a été choisi pour être roi. La notion de malchoute, de royauté. Dans le clan d'Israël, c'est bien sûr une image de la royauté divine. Alors, je vous répète que la royauté dans le clan d'Israël, ça se dit Malchut. Ça veut dire, on dit d'Hachem qu'il est Melech. Melech, c'est par opposition à Moshel. Melech, c'est un roi qui est accepté par ses sujets, par opposition à un tyran, ou un autocrate, ou un dictateur, si vous voulez. La Malchut, c'est donc une royauté reconnue par les sujets. Et Hachem lui-même, il désire, c'est pour ça qu'il a créé le monde, pour être reconnu comme Melech. Il est Moshel, évidemment. Il est le créateur, donc le monde lui appartient, il fait ce qu'il veut dans le monde. Mais il a créé des êtres qui peuvent le reconnaître ou ne pas le reconnaître. Donc, des êtres qui sont capables de faire de lui un Melech. Donc David, qui était loin pour être David, Melech Israël, on va dire qu'il est Chai le Kayam. Alors encore une fois, cette notion de Malchut, c'est quoi? La Malchut, d'une certaine manière, c'est du Kavod. C'est avoir un certain poids. C'est pour ça que les brachot qu'on fait quand on voit un roi, quand on voit un roi d'Israël, la bracha c'est « Shechalak mikvodo leireyav » qui a partagé de sa gloire à ceux qui le craignent. Donc « mikvodo » de son kavod. Et même pour un roi goy, on dit chez Nathan Mikodo le Basarbata. Toujours, le roi, il a une malchoute. C'est ce qui a, disons, probablement, qui s'est dévoyé en royauté de droit divin. Bon. C'est devenu royauté de droit divin. Avec tous les abus que ça a donné. Mais c'est ça. C'est cette malchoute qu'a un roi, c'est une part qu'Hachem lui a donnée, une part de son kavod à lui. Donc, pour accéder à la royauté, pour accéder à la malchoute, il faut avoir une idée de la vraie malchoute, c'est-à-dire une idée très claire de ce qu'est vraiment le kavod, le vrai poids. Et David, c'est celui qui a compris que tout ce qui se passe ici-bas, si ce n'est pas au niveau le plus élevé, c'est rien du tout, c'est Kherpa ou Bizayon. C'est pour ça que la Malchut lui appartient à David, parce que le vrai Kavod lui appartient. Il a compris ce que c'est vraiment le Kavod. Ça, ce sont les deux qualités fondamentales de David. Il est Tfila, et il est Malchut. Les deux viennent de la même racine. Voilà, on continuera la prochaine fois sur David Amelech. Je vais vous laisser continuer. Oui, c'est moi.
J'ai une petite question. Par rapport à l'accouchement, la chance, vous avez l'habitude...
J'ai rien compris, hein. J'entends rien. Parlez plus distinctement.
Excusez-moi, par rapport à Shmuel,